Will it. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
En vacances.
Radio X.
Trésorier, toi, très content de connaître pour, en fait, de rencontrer pour une première fois Julien Garon-Carrier, un journaliste indépendant qui, pour la première fois, se présente comme ça à Radio X avec plein de feuilles. On est bien content de t'avoir. Salut, merci. Julien.
Salut, man.
Salut, merci de me savoir.
C'est Maxime qui t'a contacté, en fait, pour qu'on comprenne, en fait, davantage ce que tu proposes sur notamment Indocile Média. Tu travailles pour quel média? En fait, t'arrives de où?
Ben écoute, Indocile Média, c'est un média indépendant que j'ai fondé moi-même. Ça fait un an que ça tourne. Moi, je suis un journaliste issu du mainstream. C'est-à-dire que j'ai roulé ma bosse dans les médias régionaux, locaux. Ensuite, j'ai écrit pour l'agence QMI.
Les hebdos régionaux, là, les petits journaux qu'on a souvent dans le qu'on avait dans le Publisac.
Exactement. Ensuite, j'ai écrit pour l'agence QMI pendant environ deux ans et demi pendant la pandémie. J'ai été à TVA en région, directeur d'information dans une station de TV. Après ça, j'ai travaillé pour les télévisions communautaires du Canada. Il y a une association pour ça, subventionnée dans le tapis, cette histoire-là. Puis là, j'en avais marre. J'en avais marre des médias traditionnels, toute la gamique.
Tu t'es affranchi de tout ça?
Exactement, je me suis affranchi de tout ça.
Du côté obscur de la force.
Oh oui. j'ai décidé de pouvoir libérer la parole, en fait, parce que tu sais, quand t'es dans les médias traditionnels, là, t'as un patron, tu dois, t'as une hiérarchie, t'as du monde qui te dit quoi faire.
Une ligne de pensée.
Oui, puis t'es assigné, puis en fonction du média pour lequel tu travailles aussi, ben, ouais. Tu sais, il y a une identité, donc tu vas pas déroger de cette identité-là, sinon t'es pas à la bonne place. Puis,
je comprends ce que tu dis. Moi, j'étais à Radio-Can avant.
Oh, non. Écoute, toutes mes sympathies. tu sais, si tu veux réellement là, avoir une parole libre, moi, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix d'être indépendant. Et c'est pourquoi j'ai parti mon propre média, là, Indocile Média.
Indocile Média, je suis allé ce matin, on comprend que tu participes beaucoup à l'écriture de ton site, mais fondamentalement...
Ben, ce n'est que moi, là, en fait, ouais, c'est mon site.
C'est ce que j'ai remarqué. La posture, en fait... Exact, ou plutôt l'emplacement, là, tu te situes où, politiquement parlant, avec Indocile Média? Julien Garon-Carrier.
OK, écoute, soyons précis. Indocile Média, c'est un mélange de paléo-conservateur et de néolibéralisme. Non.
non. J'aime ça, ces néologismes d'urgence-là, mais c'est juste que ça nécessite de les googler souvent pour comprendre.
Écoute, tu sais, Indocile Média... Le slogan Indocile Média, c'est « In libertate veritas », OK? C'est du latin qui veut dire « La vérité libère ». Donc, c'est un peu le principe de la parésia chez les Grecs, là, si tu veux, c'est-à-dire le parler vrai. Tu sais, c'est tout, là.
Le franc-parler.
C'est juste que moi, je mets de l'avant les nouvelles que je considère vraies avec l'angle dont je veux les traiter, à partir duquel je veux les traiter, tu comprends? Fait que, à partir de là, moi, je mène un combat pour la liberté de presse, mais je mène aussi un combat pour la vérité en général. Chose que je trouve qui a disparu des médias, et ça fait peut-être présomptueux de dire ça, là, des médias mainstream. Pourquoi? Mais parce que tout le monde touche des subventions.
Oui.
OK? Et on ne mord pas la main qui nous nourrit.
C'est sûr qu'on l'a senti depuis la COVID. Puis je comprends très bien de quoi tu parles. Parce que, Julien, moi, j'avais un magasin de vélo pendant la pandémie. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme ça à me demander ce que j'avais le goût de faire. Revenir au journalisme. Revenir au journalisme qui a une incidence. C'est pour ça que j'ai choisi Radio X. Et depuis mon embauche à Radio X, je remarque ici et là que c'est pas tout le monde qui apprécie mon changement de cap, d'orientation. Mais c'est surtout que, oui, tu as raison de le dire, il y a une espèce d'homogénéité dans la façon de couvrir dans le journalisme québécois. Il n'y a pas beaucoup de place pour poser des questions champ gauche ou champ droit.
C'est clair aussi. Puis tu sais, si tu regardes comment les médias traditionnels font de l'information aujourd'hui, là, c'est calqué sur les méthodes du 20e siècle. C'est fini ce temps-là. Tu sais, je veux dire, pas juste par l'entremise des médiums qu'ils utilisent, mais aussi sur la manière de la produire. Des salles de rédaction à 200 journalistes comme à la presse, où est-ce que tu vois ça encore aujourd'hui? Ça n'existe plus.
Non.
Tu sais, pourquoi sont capables de se payer ça? C'est parce que les cordons de la bourse sont déliés avec les crédits d'impôt fédéraux et provinciaux. Le cash coule à flot pour la presse, pour Le Devoir. Radio-Canada, on n'en parle même pas. C'est un média d'État. Il touche 1,4 milliard de subventions par année. En fait, c'est des crédits fédéraux. Là. C'est même pas des
subventions. La liberté de presse existait encore au Canada?
Parce qu'il y a une distorsion. Oui. Là, quand non, tu demandes aux journalistes, ils vont te dire qu'ils ne sont jamais influencés par le montant des subventions ou des crédits d'impôt qu'ils reçoivent. Par contre, quand tu lis les articles, forcé d'admettre qu'il faut que tu te confrontes à la réalité. Là.
Ben, évidemment qu'ils ne vont jamais dire qu'ils sont forcés de dire telle ou telle chose.
Ou orientés.
Ou orientés. Mais par contre, leur patron au-dessus d'eux, le chef de pupitre, le directeur de l'information, puis le big boss au-dessus, là, tu sais. Ben lui, il sait quoi dire. OK, c'est tout dans le non-dit. C'est du langage qui se dit de manière officieuse. Là, lui, il sait quoi dire, puis où ne pas aller, puis quoi mettre de l'avant pour ne pas se faire couper ses subventions. En fait, ce qu'on publie dans les nouvelles est tout aussi important que ce qu'on choisit de ne pas publier. Et je pense que c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui avec les feuilles que je vous ai apportées, les projets de loi, etc. Parce que, puis même les lois qui sont passées. Pourquoi? Parce que les projets de loi, là, C8, C9, C22, C34 du gouvernement fédéral, avez-vous entendu parler de ça dans les médias de masse québécois et canadiens?
En fait, non. Puis il a fallu que je m'y intéresse parce que sachant que tu venais, Julien, en onde comme ça et que c'était l'objet de ta chronique aujourd'hui, on peut s'en faire, en fait, sur les lois qui surveillent les Occidentaux que nous sommes. T'sais, on peut se poser des questions sur le contrôle informatique au Canada. On n'est pas des épais. Là, quand on parle avec notre blonde là, de s'acheter la nouvelle Honda puis, ou la nouvelle Toyota ou la nouvelle BM ou peu importe, je ne voulais pas nommer une compagnie, mais on se retrouve avec notre téléphone pendant des jours et des jours avec des pubs. Fait qu'on le sait, là, on n'est pas naïf, mais de parler concrètement de C8, C9, C22 et de C34, ben, on te laisse toute la place parce que je pense que ça va intéresser énormément notre auditoire.
Oui, bien, c'est ça. Écoutez, ça, c'est des lois là, qui datent de là, un an environ. Là, tu sais, c'est des projets de loi qui ont été mis en place par le gouvernement libéral de Mark Carney et qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire une surveillance du web, une sorte de contrôle de l'infrastructure du web. Si on commence avec C8, c'est la loi sur la cybersécurité. Okay? L'objectif de cette loi-là, en fait, c'est de protéger les infrastructures de télécommunications contre les menaces d'ingérence, de manipulation et de perturbation démocratique.
Ben ça, c'est noble.
C'est très noble.
Mais quand on veut établir une société du contrôle, il faut toujours faire du signalement de vertu. Oui. C'est pour protéger les enfants, c'est pour protéger...
Anoblir les intentions.
Protéger les faibles.
Avec la sécurité.
Des menaces sur
c'est
le web.
Buzzword.
Exactement, mais c'est toujours ça. C'est toujours une sorte de jeu d'équilibriste entre sécurité et liberté. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça octroie à l'État. En fait, c'est le gouvernement qui vote cette loi-là, qui est administrée par l'État, donc des hauts fonctionnaires puis des fonctionnaires qui appliquent la loi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par l'entremise de C8, ils vont être en mesure d'ordonner aux fournisseurs de télécommunications que sont Bell Rogers, Telus, Vidéotron, tout ça, de pouvoir bloquer l'accès aux réseaux sociaux sur le territoire canadien ou même s'ils considèrent qu'un réseau social peut représenter une menace d'ingérence dans la démocratie canadienne, le bannir complètement du territoire canadien. Et là, on pense à X, Elon Musk, qui est détesté par les élites politiques canadiennes. Et si, à un moment donné, la liberté de parole est trop importante sur X ou qui confronte trop directement les politiques du gouvernement canadien, on pourrait penser à faire taire les opposants politiques en bannissant X. C'est pas impossible. Ça, je l'ai déjà écrit dans mes articles sur Indocile Média. Aussi, ce projet de loi-là va permettre, en fait, de contrôler les adresses IP des gens. C'est-à-dire que sur la base d'une ordonnance administrative, ils pourraient décider que, bon, ben écoutez, vous autres, vous participez au convoi des camionneurs, vous êtes 500 là, en face du Parlement.
On l'a couvert pas pire, le convoi.
Là, l'armée canadienne passe au-dessus avec un avion, a fait de la récolte de données massives, apprend les métadonnées puis les données de tout le monde dans les téléphones.
On peut faire ça avec un avion.
Oui, oui, ça a été fait pendant... C'est l'exemple concret que j'utilise. Okay. Ça a été fait pendant la pandémie. C'est l'armée canadienne qui a fait ça pendant le convoi des camionneurs.
La GRC a pisté énormément de gens aussi pendant la pandémie.
Je savais pas ça qu'on pouvait du haut des airs comme ça.
Non, c'est illégal. C'est illégal, ça a été fait.
La technologie permettait ça.
C'est du scrapping de masse.
Est-ce qu'on le permettait à cause des mesures de guerre ou il y a une zone grise?
Moi, je pense que c'était illégal. À mon souvenir, l'Ottawa Citizen a écrit là-dessus. Vous pourrez aller checker. Mais ceci étant dit...
Mais ça reste un sujet marginal, là.
Oui, non, mais tu sais, je veux dire, les médias de masse n'en parleront pas parce qu'ils sont subventionnés, ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit. OK? Non, mais honnêtement, là, à partir de là, quand tu as récolté l'ensemble de ces données-là, qu'est-ce que tu fais si C8 est en application? Tu bloques l'adresse IP de tout le monde qui participe au convoi des camionneurs dans l'instant. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir réglementaire, législatif et juridique de le faire. Paf! tu viens de mettre un terme à l'opposition politique.
Mais l'organisation,
ces gens-là ne peuvent plus communiquer entre eux.
Ils sont désorganisés totalement. Okay. Je sais qu'on avait vraiment fermé l'accès à leur compte bancaire dans certains cas. Ouais. Ça avait été dit et réécrit, en fait. Mais là, de voir... Le projet C8, ça a été voté ou c'est encore un projet, là?
Non, c'est,
voté.
C'est une loi.
C'est une loi.
Ça a été adopté au mois de juin, donc ce n'est plus un projet de loi. Il va entrer en application à partir du 18 juin. En fait, il a reçu la sanction royale. Donc, il y a force de loi à l'heure actuelle. Je pense que c'est le 18 juillet qui entre en application, mais de toute façon, ça va pas aller à l'automne avant qu'on arreste, qu'on fasse des arrestations politiques là, de type Gestapo, Stasi.
Parce
là,
qu'on n'est plus dans
les dissidents du web. Là,
ouais, on n'est pas dans la politique fiction.
Les fonctionnaires sont en congé.
Ah ben oui.
Est-ce qu'on pourrait assister, à l'automne à ce qu'on voit en Angleterre présentement?
Qu'est-ce qu'on voit en Angleterre?
Écoute, c'est hypothétique. Moi, je dirais
on va y venir avec ces neuf, éventuellement.
Ouais, mais moi, je dirais que c'est pas impossible, Max. Honnêtement, là, qu'on voit des arrestations sur la base de publications sur les réseaux sociaux, ce qui nous amène clairement à ces neuf, en fait, là, qui est la loi visant à lutter contre la haine.
Plus révoltante, en fait, quand on lit le texte. Le citoyen lit ça, puis se sent encore plus confronté, puis je vois qu'est-ce qui se passe.
Tu sais, puis oui, tout à fait. Très, très d'accord avec toi. C'est d'autant plus révoltant que, tu sais, les discours haineux, là, c'était déjà encadré par la loi.
Oui.
Là, ce qu'ils viennent faire, c'est abaisser le seuil de qualification du discours haineux en l'associant non plus à de la haine, entre guillemets, mais à du dénigrement, entre guillemets, et de la détestation. Donc, si tu fais preuve de dénigrement sur le web, dans une publication, ça va pouvoir être associé à du discours haineux. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir subir... des accusations judiciaires. Tu vas être poursuivi là, pour ça. Ce ne sont pas des lubies. Pourquoi? Parce que j'ai écrit un autre texte ici.
Non, mais on est tous contre la violence sur le web. Là. Des propos qui sont... propos paramétrés par... je veux tuer telle personne, je suis contre tel groupe ethnique. Ou, c'est des propos qui n'ont aucun sens, mais c'est déjà paramétré par des lois. Tu ne peux pas déclarer tu veux annihiler telle partie de la population parce que ça ne te plaît pas.
Mais c'est différent. C'est pas juste la haine, c'est un appel à la violence. C'est carrément illégal. Mais là où, moi, j'accroche avec cette loi-là, c'est qu'il y a une intention très claire qui est télégraphiée à travers la loi. Si tu abaisses le seuil de qualification du discours haineux pour l'associer à du dénigrement, c'est parce que tu souhaites, en fait, que les gens ne puissent pas s'exprimer de peur d'être poursuivis. Les balises ne sont pas claires. Donc, par exemple, l'immigration de masse, phénomène de société indéniable au Canada. L'Institut Fraser a produit des études là-dessus. Depuis l'ère de Justin Trudeau, l'ère libérale, on a reçu environ 1,4 million par année d'immigrants depuis le dernier recensement en 2021. Là, dans les cinq dernières années, on a environ 4,5 à 5 millions de plus d'habitants au Canada.
Okay,
c'est une augmentation de la population de 12,5% en 5 ans au Canada. C'est phénoménal.
C'est du jamais
vu dans l'histoire du pays.
Le ratio, aux États-Unis, c'est comme s'il accueillait 11 millions de nouveaux migrants par année. Le ratio par rapport à leur
année,
population.
En fait, c'est, moi, j'avais fait le calcul là, au prorata de la population. C'est comme si pendant la même période, 2021 à 2026, les États-Unis avaient accueilli 41 millions d'immigrants.
C'est
imaginable. Ils en ont eu 10, puis ils capotent, puis c'est les expulsions avec ICE à grandeur. Okay? Mais nous autres, ici, si on critique ça, on est jugé comme étant raciste. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si j'écris maintenant sur l'immigration de masse, d'un point de vue critique, est-ce que ça va être associé à un dénigrement des communautés culturelles faisant en sorte que je vais pouvoir être poursuivi par ces neuf?
Simplement émettre un doute sur une publication Facebook ou Instagram peut devenir à ce moment-là une arme qui se revire contre toi.
Puis qu'en est-il de la satire aussi? Des gags?
Qu'en est-il de la satire?
La ligne entre l'humour.
Quelle bonne question. Écoute, c'est une zone de gris. Je
sais pas. Des bots qui vont nous filtrer, là.
Je sais pas. Ah oui, sûrement, l'intelligence artificielle, mais faut pas s'imaginer qu'ils vont pas créer des emplois liés
aussi,
à un
mais la nuance, les bottes, c'est pas leur force.
Tout, là, parce qu'en Angleterre, ils ont un penchant assez neuf. Puis l'année dernière, uniquement l'année dernière, on a procédé à près de 12 000 arrestations sur des motifs de commentaires haineux en ligne. Puis la ligne est très floue. Ils arrêtaient des pères de famille. Bang! Frappe la porte d'entrée dans l'appartement, s'empare du père, il passe les menottes devant et quitte, puis il passe avec ses 12 000 arrestations. Pense à ça, là.
Ouais.
Pour des commentaires écrits en ligne.
Oui, oui.
C'est capoté, là.
Mm-hmm. Oui, puis ça, soit dit en passant, c'est même pas fait sur la base de nouvelles lois qui ont été votées en Angleterre. Là. Les lois existaient déjà depuis 1988 et depuis 2003.
Ils ont été appliquées ou réinterprétées?
Ils ont raffirmé?
Ils ont été appliqués, c'est-à-dire que c'est les Communication Act à partir duquel ils vont poursuivre les gens, justement, pour grossière offense ou dénigrement ou ce genre d'affaires-là. Donc, on s'entend là, que... T'sais, on peut supposer que les mêmes causes vont avoir les mêmes effets. Donc, si l'Angleterre a ce type de loi-là, puis ça l'a mené à 12 000 arrestations, puis que le Canada adopte ce type de loi-là, bien, il ne faut pas, s'imaginer que c'est pour le plaisir. C'est parce qu'il va y avoir des gens qui vont être arrêtés. La force coercitive par rapport à l'application de cette loi-là va être mis en application. Il ne faut pas en douter. C'est pas mis, c'est pas voté pour le plaisir.
Julien, as-tu des exemples qui pourraient être mis en application concernant la loi C9? Parce qu'on parle d'une loi.
Check bien ça. OK. La semaine dernière, Blacklock, qui est un média indépendant d'Ottawa, OK, eux autres, là, ils marchent avec des demandes d'accès à l'information, sont vraiment sacoches, font du journalisme d'investigation. Là, ils ont reçu une note d'information qui était destinée à Mélanie Joly, la ministre de l'Industrie canadienne.
Oui.
OK, qui mentionne clairement... pardon.
Moi, je t'ai servi un petit verre d'eau au cas où, si tu as besoin d'un refil, je te trouverai ça.
C'est reparti. OK, qui mentionne clairement qu'ils sont en train d'étudier comment poursuivre les gens sur la base de publications sur les réseaux sociaux. C'est une note qui date du 31 mars 2026.
C'est là, c'est cette année, okay. Là. C'est notre ministre à nous.
Puis,
là.
Oui, puis cette note d'information-là, elle a été sortie par Blacklock, qui ont fait un article qui a été repris dans le Toronto Sun. Et qu'est-ce qu'on trouve? Tu sais, c'est cité, là, je vais vous le citer, là, c'est écrit noir
sur
blanc
dans la note
d'information. Okay. Pourquoi ils font ça? C'est pour préserver l'intégrité de l'information gouvernementale et la confiance du public dans celle-ci. Préserver l'intégrité de l'information gouvernementale. Autrement dit, si tu émets une opinion ou un point de vue contraire à l'information gouvernementale, OK, tu pourrais être poursuivi pour mésinformation. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a une différence entre la mésinformation et la désinformation. Depuis les Twitter Files, je ne sais pas si vous êtes au courant des Twitter Files, oui. Si votre Audimat est familier avec les Twitter Files, mais en gros... C'est Elon Musk qui a donné accès au serveur de Twitter quand il l'a racheté pour en faire X à des journalistes indépendants américains qui ont démontré qu'il y avait une collaboration entre les services de renseignement américains et les plateformes des GAFAM pour censurer le web.
Hunter okay. Biden, d'ailleurs, donc, a été là-dedans.
Oui. Histoire. En moment d'élection, donc, en moment de COVID, il y a eu plein
de... On parle de grands journalistes américains de type Michael Schellenberger, Matt Taibbi, etc.
Exact.
OK, donc, depuis les Twitter Files, on considère que la désinformation, c'est quelque chose qui est factuellement faux et qu'on veut prévenir. Mais la mésinformation, c'est quelque chose qui est factuellement vrai, mais qui va à l'encontre du point de vue officiel des experts, des gouvernements,
ça, c'est altérer
des
la,
États.
C'est altérer okay? la vérité pour en faire quelque chose qui nous plaît davantage.
Ah, en fait, la mésinformation, là, si toi, tu fais de la mésinformation, c'est que tu es juste en désaccord avec le point de vue officiel des gouvernements, des experts ou des États.
Ah, puis des fois, si tu le sais même pas, en fait, que tu propages la désinformation, ça s'inscrit aussi dans le cadre de la mésinformation.
C'est de la mésinformation.
Exactement.
Mais là, c'est ça qu'ils veulent prévenir. Mais tu sais, c'est parce que la mésinformation, ça touche à la liberté d'expression. Tu sais, si moi, je veux... me positionner comme étant un dissident politique à l'endroit de la caste laurentienne canadienne, j'ai totalement le droit de le faire dans le respect des chartes des droits et libertés canadiennes.
Mais oui, déjà paramétré.
Tu sais, je veux dire, mais là, ben c'est ça l'affaire. C'est déjà paramétré. Donc, mais mettons que moi, je me fais poursuivre sur la base de cette note d'information-là du ministère de l'Industrie fédérale qui a été donnée à Mélanie Joly dans le but de prévenir la mésinformation, OK? Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un justiciable comme ça, journaliste indépendant. J'ai 10 ans de combat juridique devant moi. Il faut que je passe par la Cour du Québec, la
ça
Cour supérieure, pas. La ben, Cour d'appel.
Ils vont te fermer. Et de ces médias, ça n'existera plus.
La Cour suprême. Donc, c'est ça. C'est une stratégie juridique pour faire taire les gens, en fait, parce que ça coûte trop cher. Fait que, tu sais, sur la base de C9, ils vont poursuivre les gens pour des discours haineux associés à du dénigrement, en fait, donc de la critique qui pourrait être légitime. Toi, tu vas te payer un avocat à 100 000 $ par année. Là,
non,
ça
va
même, plus loin que ça, parce que pour la personne lambda qui propage de la désinformation sans savoir que c'est de la désinformation, il y a de la crap, ces réseaux sociaux, là, tu partages une publication
oui.
Parce que ça a attiré ton attention, tu as aimé le gag, ben là, tu es considéré comme une personne qui fait de la mésinformation sans
complice.
Même que tu le saches.
Sans même le savoir.
Et tu peux te faire arrêter, et la loi C9 est entrée en vigueur le 18... juin, elle a eu la sanction royale et elle va rentrer en vigueur le 18 juillet comme C8. Fait que...
Est-ce qu'on a les moyens d'appliquer ces lois-là ou on est dans un fantasme légal? Là?
Ben honnêtement, moi, je pense qu'ils ont les moyens de le faire. ils ont les moyens de le faire, tout simplement parce que c'est de la surveillance en ligne. C'est de la surveillance en ligne, là. Tu peux mandater la GRC pour faire ça, le SRS. Oui. Tu peux mandater, comme ils vont le faire avec, ça c'est intéressant, C-34, loi sur la sécurité numérique. Cette loi-là, ça c'est pas une loi encore, OK? C'est un projet de loi qui a été déposé mi-juin.
Mais qui fait son chemin.
Qui a été déposé mi-juin, puis qui va créer la Commission de la sécurité numérique du Canada. Cette commission-là, OK, en fait, là, c'est une gang de fonctionnaires qui vont appliquer des critères de protection des enfants sur les réseaux sociaux, OK, mais en fait, ils vont être là pour censurer la parole. C'est ça qui va se passer. Puis même, on leur octroie des pouvoirs de police parce qu'ils vont être en mesure, ils vont avoir des inspecteurs qui vont pouvoir rentrer chez toi, saisir du matériel informatique s'ils ont des doutes sur le fait que tu puisses ou non produire du contenu préjudiciable. Du contenu préjudiciable. Qui définit le contenu préjudiciable? On ne sait pas. C'est même pas encore inscrit dans la loi. Oui, mais c'est même pas... Exactement. C'est même pas encore inscrit dans la loi. Ça va être la Commission de la sécurité numérique du Canada. Donc, pour l'instant, on sait même pas c'est quoi le contenu préjudiciable.
Mais
on nous dit qu'on va pouvoir se faire arrêter par rapport à ça. Puis pire, cette commission-là, avec les fonctionnaires, OK, ils vont être en mesure d'accéder à distance, OK, à votre matériel informatique. Ça veut dire quoi?
Dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ta tablette.
Checker ta messagerie, checker tout ce que tu as sur ton ordinateur, blablabla. Bla, 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 bla. Là, moi, je m'excuse, là, mais ça ressemble à Big Brother, cette histoire-là.
Beaucoup.
Ben oui, c'est 1984. Mais ça, concrètement, là... excuse-moi, je veux pas te couper,
Julien. Big Brother avec les intentions de la Gestapo.
D'entrer dans ton contenu personnel, c'est une invasion à la Charte des droits et libertés de la personne.
Ben, on pourrait le croire. On pourrait le croire. Mais le problème avec ça, c'est que de la manière que la justice fonctionne, c'est que les lois sont présumées légales a priori. Donc là, ils vont être votés, ils vont être... puis tu sais, soit dit en passant, là, moi, je vais faire des reproches immédiatement là, au gouvernement fédéral libéral là, de Mark Carney. Là. Ce gouvernement-là n'a pas la légitimité démocratique d'appliquer ce type de loi-là. OK?
Ben,
là, C-34, c'est un projet de loi. C-22, on n'a pas encore parlé, mais c'est une loi qui a été adoptée sous le baillon. Maintenant, elle a quitté le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des communes, puis elle va se retrouver au Sénat, probablement adoptée à la prochaine session parlementaire. OK? Mais... Mark Carney, ce qu'il a fait, là, puis les libéraux, ils ont attiré 5 députés de l'autre côté de la Chambre pour les faire transférer...
Courtiser.
C'est ça. Pour les faire transférer chez les libéraux, OK? Puis il y a une dame qui est une députée conservatrice qui est passée au podcast de Norton Perspective qui a dit « Ils utilisent la peur, ils utilisent des méthodes de type chantage, tout ça, là, tu sais, pour te faire traverser. Puis aussi, ben ils vont te flatter dans le sens du poil. » Tu sais, fait qu'ils jouent sur tous les tableaux. Puis... là, avec ce transfert de transfuge-là, ils se sont accordés une majorité parlementaire.
Ben oui.
Ils se sont accordés une majorité parlementaire. Donc, les Canadiens, ils ont voté pour quoi? Pour un gouvernement minoritaire.
Oui.
OK, on se retrouve avec un gouvernement majoritaire qui nous adopte des lois sous le baillon puis qui met un terme au comité parlementaire. Parce que là, les comités parlementaires, ça permet aux députés de poser des questions, ça permet de
mais
faire des bonnes
avec une majorité.
Avec une majorité, ils peuvent fermer les comités.
C'est ça.
C'est capoté.
C'est littéralement... C'est soviétique. Honnêtement, là,
on a tout le temps de parler de C-22, les boys. C'est sûr qu'on essaye de faire 4 projets de loi ouais, en 20 ouais, minutes.
Mais on est capable d'en prendre. Là. On prendra une minute sur le prochain. Mais
allons-y.
Je pense que ça vaut la peine de faire le survol total avec Julien Garon-Carrier, qui est en visite pour la première fois à Radio X. Un journaliste indépendant extrêmement motivé aujourd'hui. Et je pense que même à la messagerie 418-670-9098, si vous voulez participer à la discussion, vous êtes déjà nombreux. Tu as un effet, Julien, présentement sur notre Audimat.
Ouais, tant mieux. Rendez-vous sur indocilemedia.com. Lisez les textes. Préparez-vous. Prémunissez-vous. Achetez un VPN. Organisez-vous. Stockez de l'eau dans vos sous-sols. Les femmes et les enfants d'abord. Vite!
Hey, mais juste avant que tu tombes dans C-22, je suis quand même curieux de t'entendre sur l'aspect complotiste de ces mesures-là. C'est des lois. On n'est pas dans la politique fiction. Là. C'est des lois qui ont été passées pour deux premières, C-8, C-9.
Oui.
Quand tu parles de ça, que ce soit sur ton média personnel ou dans des vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux...
Ou même aujourd'hui en ondes ici à Radio X.
J'imagine que ça arrive que parfois, on te colle cette étiquette-là de gars alarmiste, de gars qui voit trop loin. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens qui pensent qu'on est alarmiste en ce moment mettant de l'huile sur le feu d'un espèce de grand complot pour nous limiter nos libertés, alors que c'est pas le cas du tout.
Ouais, mais tu sais, Max, en fait, là, ça, c'est une forme de délégitimisation de la parole publique.
Définitivement.
T'sais, c'est qu'on cherche à t'accoler une étiquette pour te catégoriser. Les gens qui n'ont pas d'esprit critique ou qui ne sont pas capables de se faire une idée par eux-mêmes, qui vont juste pogner une bribe là, d'une clip à Radio-Canada ou whatever, ou qui vont lire quelque chose là, sur les réseaux sociaux, qui sont endoctrinés depuis 10 ans là, à détester Trump ou à lire la presse ou whatever. Bon, ces gens-là, ils vont pas... ils vont prendre ça pour du cash. C'est-à-dire que ce qu'on leur donne, ils vont prendre ça pour du cash. T'sais, moi, je vous invite à aller lire...
Pour eux, la source est bonne.
C'est ça. Ben, c'est-à-dire que c'est l'autorité de la source qui fait, qui fait la véridiction
La légitimité.
Qui fait la véridiction de la nouvelle. C'est-à-dire qu'on se fout complètement de la vérité, mettons, intrinsèquement, là, je vais utiliser un grand mot, là, mais de manière épistémique, OK? On se fout de la vérité.
La
dans
qualité
le fond,
de la vérité.
C'est que c'est l'autorité de la source qui va déterminer de la véridiction du propos.
C'est le critère. Okay?
Mais ça, c'est pas garant de vérité. C'est comme la force du plus grand nombre. C'est pas garant de vérité. T'sais, c'est pas parce qu'il y a 1000 personnes qui pensent de même, mais toi, t'es tout seul à pas penser de même, que les 1000 ont raison. Peut-être c'est toi qui as raison.
On sait bien à radio avec ça.
Fait que ceci étant dit... qui me traitent de complotiste tant qu'ils veulent. Là, moi, je n'ai pas quitté les médias mainstream pour m'en laisser imposer. Puis j'ai starté mon média indépendant justement pour pouvoir libérer la parole. Donc,
Libertate
Veritas, gang.
C'est un raccourci intellectuel qui est souvent amené à propos pour les gens qui ont
un
manque d'esprit critique. C'est ce qui nous mène vers C22, justement, en terminant. C22, c'est un gros morceau, ça aussi. Là.
C22, c'est un gros morceau.
Est-ce que c'est la plus grosse menace concernant endosser le média?
Oui.
Je pense que oui. Hein.
Honnêtement, là, C22, là, c'est que en fait, c'est la loi sur l'accès légal, puis les forces de police vont pouvoir vous espionner. Moi, ce que j'ai écrit sur C22, c'est que c'est une loi qui rend chaque Canadien suspect, a priori. OK? Donc, en fait, là, ils vont pouvoir accéder. Donc, les forces de police, donc quand on parle des forces de police, on parle du SRS, GRC, la SQ, même la police locale, OK? C'est la loi stipule.
Même la police de Lévis.
La loi stipule force de police. Ça dit pas genre police fédérale, etc. Non, force de police. Ça, à la limite, si la police de Lévis veut accéder à mon Facebook, elle aura juste à faire une demande en vertu de la loi C-22, puis peut-être qu'elle va pouvoir y avoir accès, je ne sais pas, moi.
Et d'avoir toutes tes correspondances, tes échanges avec tout l'historique.
Pourquoi pas? T'sais, puis de toute façon, on sait bien que les journalistes, ça fait longtemps qu'ils sont espionnés là, par des logiciels espions.
Par le SPVM, Pat Lagacé puis Monique Néron, leurs téléphones ont été tapés, je veux dire, TP.
Aïe, aïe.
Il y a quelque chose que je sais, c'est bien ça.
Le SPVM!
Oui, le SPVM.
Fait qu'imagine ce qui se passe à l'échelle fédérale. Tu sais, voyons donc. De toute façon, regarde, c'est pas la première fois qu'ils vont faire des affaires illégales. Là. Ils n'ont pas eu besoin de ces lois-là pour espionner tout le monde pendant la pandémie. Fait que tu sais pourquoi qu'ils... Fait que, anyway, C22. Écoute, c'est pas compliqué. Ils vont avoir accès sans mandat à toutes les métadonnées de vos réseaux sociaux, de vos téléphones cellulaires. OK? Mais par contre, on parle des forces de police. Par contre, s'ils veulent avoir accès à vos données en tant que telles, c'est-à-dire le contenu des messageries, tout ça, ça leur prend un mandat, OK, pour pouvoir effectuer ça. Sauf si on est dans une période d'urgence. On est en urgence. Donc, mais qui décide?
Genre le convoi des camionneurs.
Genre le convoi
des pandémie.
Ouais, mais attends un peu. C'est mieux que ça. C'est
concret.
C'est lunaire, OK? qui détermine l'urgence? La police elle-même. C'est pas genre. Elle est juge et partie. Donc, c'est même pas le politique, c'est-à-dire les gens démocratiques.
Non, c'est le policier devant son ordi. À partir de 15h, c'est l'urgence. À 16h, c'est fini.
On est en urgence, fait que là, j'ai le droit.
Est-ce qu'elle est obligée de le dire, la police, qu'elle est en état d'urgence, entre guillemets, pour accéder à ces documents-là?
Non, c'est ça.
Fait qu'elle peut garder ça à l'interne.
Ordonnance de non-divulgation pendant 3 ans. Fait que, tu sais, toi, tu peux être espionné par la police fédérale là, pendant 3 ans, puis faire des demandes d'accès à l'information, puis dire, hey, moi, je veux savoir tout ce que vous avez sur moi, c'est quoi? Ben, OK? Ils peuvent ne pas te donner les documents s'ils veulent parce qu'il y a une ordonnance de non-divulgation. Fait que ça, moi, je me demande si ça va passer le test des tribunaux, mais comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est le genre d'affaire qui prend 10 ans de poursuite judiciaire.
Oui. T'sais, on va avoir eu trois premiers ministres avant qu'on ait une idée.
Moi, je vais être dans un camp de concentration avant que ça finisse.
Non, mais Julien, penses-tu que tu es observé? Penses-tu que la GRC ou peu importe le corps policier t'a déjà mis un peu... est-ce qu'il y a une loupe dirigée en ta direction?
Ben écoute, le gars, talonne pas mal les projets de loi là, du gouvernement libéral qui qualifie de liberticide un peu partout sur les réseaux sociaux, sur son site web, à radio. Ils essaient d'alerter la population. Fait que, tu sais, c'est sûr que les leaders d'opinion vont être pris comme cible, c'est évident. Parce que ce sont eux qui... je veux dire, c'est pas le gars qui travaille sur la construction qui, lui, il a un horaire de 7 à 3. Moi, je fais ça de mes journées, tu comprends?
Oui.
Fait que c'est sûr que moi, je suis là pour lire les projets de loi, faire la job que vous avez pas le temps de faire puis essayer de vous la transmettre. Fait que c'est clair que ça va être les premiers ciblés, ce monde-là.
T'sais? Julien Garon-Carrier, le temps presse, mais juste une dernière chose, une dernière question. En fait, spécialiste dans le journalisme de données, tu m'as glissé ça comme ça quand tu es arrivé en studio. Qu'est-ce que le journalisme de données et qu'est-ce que les auditeurs pourraient retenir de cette expression-là? Parce que je me doute bien que c'est un journalisme qui est voué à un avenir.
Bien, le journalisme de données, en fait, c'est d'utiliser la statistique pour faire parler les phénomènes de société. Fait que on utilise tout ce qu'on peut, que ce soit des données ouvertes ou des données qu'on obtient par l'entremise de la loi à l'information ou bien des grands fichiers de données de Statistique Canada, etc., pour essayer de dépeindre un peu le portrait de la société à travers des chiffres. Par exemple, mon dernier article de journaliste de données, j'ai utilisé les trois dernières années des données ouvertes de la Ville de Montréal concernant la criminalité. Bon, ben, tu sais, si on fait juste se fier, mettons, aux statistiques de base, on se dit, bon, mais la criminalité augmente pas tant, tu sais, à Montréal. Ouais, mais si on tombe dans le qualitatif par rapport aux données qu'on a, on se rend compte que, ben, en fait, il y a certains types de crimes qui diminuent, puis il y a certains types de crimes qui augmentent. Donc, les vols de voitures, tu sais, voilà une couple d'années à Montréal, c'était capoté. Mais là, ça a vraiment diminué de manière draconienne. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les efforts de police là-dessus. Bon, ben c'est parce que pourquoi?
Il y a une surveillance au port de Montréal.
Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, il y avait des mafias internationales qui étaient là-dedans. Les voitures étaient volées pour le compte du Hezbollah. C'était chippé à l'étranger. Donc, ça devenait un truc hyper mafieux.
Un enjeu de sécurité nationale.
Oui, c'est ça. Ça a été diminué parce qu'ils ont mis des efforts de police là-dessus. Mais par contre, en contrepartie, on se rend compte que les crimes contre la personne ont augmenté de 15 %. Donc, les agressions, les voies de fait, agressions sexuelles, etc. T'sais, tout ça mis ensemble, ça a augmenté de 15 %. Fait que, tu sais, ça nous renseigne un peu, si tu veux, sur l'état sécuritaire de la métropole. T'sais. Bon, OK, il y a moins de chars qui se volent, mais il y a plus de monde qui se font agresser sur la rue.
Les crimes sont plus violents. Il y a une augmentation de la violence criminelle. Alors que, bon, je pense que c'est un rendez-vous qui a été fort apprécié. Julien Garon-Carrier, je pense qu'on pourrait dire à la prochaine. Les journalistes indépendants sont trop peu nombreux au Québec pour qu'on puisse s'en passer. Je suis certain que ta voix aura un écho sur l'antenne ici à Radio X, surtout que c'est Maxime qui est derrière ton arrivée ici. Je te souhaite la meilleure des chances. On peut aller faire un tour si vous avez apprécié le dernier moment sur notre antenne sur Indocile Média. Puis sinon, ben nous, on se délecte de ce que tu nous as proposé, en fait, la synthèse des projets C8, C9, C22 et C34.
Wow. Merci de l'invitation, super.
Merci à toi.
Merci Julien. Reste courageux, on a besoin des gars comme toi.
Ouellette, en direct.
Radio X.